Salut tout le monde, j'aimerais commencer par une question. Qu'est-ce qui reste à faire, aujourd'hui, avec le xénomorphe? Je veux dire sur le registre de la peur. Une créature qui, à l'origine, comme vous le savez, a tout son sens quand elle est dans les ténèbres, quand on ne sait pas où elle commence, où elle finit, on ne sait pas ce qu'elle est, on ne sait pas comment elle fonctionne. Comme l'a montré si bien le premier film de Ridley Scott, toute la sève et toute la source de la peur et de la tension, elle se situe là. Et qu'est-ce qu'on fait de cette créature après maintenant 46 ans sous la lumière écrasante de la pop culture? Une créature maintenant qu'on connaît absolument par cœur, qu'on retrouve comme un vieux pote, comme les icônes du cinéma d'horreur façon Freddy ou Jason. Est-ce que ça a un sens encore aujourd'hui de reprocher à cette créature de ne plus faire peur quand elle a des figurines Funko Pop à son effigie? Je veux dire, ça, les cinéastes l'ont compris immédiatement après le film de Scott. Parce que quand on y réfléchit bien, dans la franchise, le seul film d'horreur à part entière, c'est le premier de Ridley Scott. Direct après, Cameron, quand il fait le deuxième, il fait un film d'action. Fincher et Jeunet, quand ils font 3 et 4, ils font des thrillers atmosphériques. Jeunet avec une pincée de poésie morbide par-dessus. Alors bien sûr, il y a des éléments d'horreur là-dedans. Mais c'est pas des films d'horreur à part entière. L'horreur est saupoudrée par-dessus. L'Aliens versus Predator, c'est des films d'action. Prometheus et Covenant, c'est de la SF existentielle. Avec encore une fois des éléments horrifiques et de gore par-ci par-là, mais c'est de la SF existentielle qui fonctionnerait dans sa démarche sans les éléments horrifiques. Et le seul film finalement qui veut vraiment être un film d'horreur à part entière, après le premier en 79, c'est Romulus. Mais Romulus, c'est pas vraiment un film pour moi, c'est un bégaiement. Romulus, c'est un karaoké des 4 premiers volets, à 80% du premier et à 20% du 2, 3, 4. Et c'est un karaoké qui est très bien foutu. Techniquement, il y a des très bons techniciens à la barre, mais personnellement, un karaoké, même bien chanté, je me dis que je préférais écouter les morceaux de base. Et Romulus, paradoxalement, c'est le premier qui revient à l'horreur à part entière, et c'est le premier aussi dans toute la franchise qu'on considère les bons films comme les mauvais films, qui ne fait rien avec les mythologies, autre que dire « j'adore cette mythologie ». Du coup, on fait quoi aujourd'hui avec le xénomorphe? Si on vous filait un paquet de thunes pour faire la prochaine œuvre canonique Alien, mettez-vous dans les pompes du gars à qui on dit tu vas écrire ça et le chapeauter, vous faites quoi? Au-delà d'y penser 2-3 secondes, tout ça, vraiment si vous vous projetez dans cette industrie, avec les attentes, avec les bâtons dans les roues qu'on va vous mettre, avec les cahiers des charges, avec le fait que quoi que vous proposiez, que ça soit bon, que ça soit mauvais, que ça soit original, que ça soit pas original, que ça soit fan service ou pas fan service, le monde entier va vous chier dessus. Le monde entier va vous dire que ce que vous avez fait est une abomination. Du coup, vous faites quoi? Et cette question, c'est une question que se pose constamment Alien Earth. C'est une série qui a beaucoup de problèmes, mais son problème principal, c'est pas forcément celui dont ont bien voulu parler la plupart des gens. Et du coup, on va en parler. Alors, un très rapide résumé. Ça se passe dans un monde qui est gouverné par 4 méga corporations. Il y a la Weyland Yutani, qu'on connaît déjà de la mythologie alien. Il y a Prodigy, qui est gouverné par une sorte d'enfant génie, enfin un jeune adulte génie, adolescent, on sait pas quel âge il a, je sais plus. Et il y en a 2 autres, on ne sait pas. C'est un peu comme les mages bleus dans l'univers de Tolkien, ils sont quelque part. Et donc ça commence avec un vaisseau spatial de la Weyland Yutani qui est parti récupérer en douce des échantillons de vie alien, on ne sait où, qui s'écrase dans une ville qui est possédée par Prodigy, la corporation. Prodigy envoie une équipe qui va récupérer tous les échantillons de vie alien et les ramener dans l'île laboratoire qui est le QG en fait de Prodigy. Pendant ce temps, en parallèle du côté de Prodigy, le big boss de Prodigy qui s'appelle Boy Cavalier bosse sur une toute première dans l'histoire de l'humanité, c'est de transférer une conscience humaine dans un corps artificiel. Selon lui, c'est une manière d'accéder à l'immortalité et bien entendu, de le monnayer. Il est en train de réaliser une expérience où il y a plusieurs enfants qui étaient atteints d'une maladie en phase terminale, dont il a transféré la conscience dans plusieurs corps adultes androïdes. Tout ceci, mis dans le huis clos de cette île laboratoire, va bien entendu donner lieu à plein de péripéties, et en particulier, le personnage principal, Wendy, qui est le principal enfant hybride humaine artificielle, va développer une sorte de connexion presque mystique avec les formes de vie extraterrestres, et en particulier, le xénomorphe. Bon, c'est une série qui s'est faite défoncer. C'est une série extrêmement décriée, particulièrement en France, j'ai l'impression. Dans le monde anglo-saxon, ils sont un petit peu plus cléments avec. Personnellement, j'ai apprécié. Voilà, c'est une série qui a plein d'imperfections, qui a plein de problèmes. Là, en l'occurrence, pour les raisons dont j'ai parlé en introduction, je n'attendais à rien de cette série, il n'y a rien en tout cas concernant la mythologie du xénomorphe. Et surtout, le créateur de la série, qui s'appelle Noah Hawley, il y a un truc qui transparaît dans la série, c'est qu'il a un rapport très très ambivalent à ce qu'est la culture pop aujourd'hui, et à tout ce qui est le lore qui accompagne les gros univers façon Alien. Et je crois que ce rapport ambivalent à ça, je m'y suis plutôt pas mal retrouvé, et selon l'angle sous lequel on la regarde, cette série est vraiment tout sauf inintéressante. En tout cas, elle a des choses à dire, même si elle est dit de manière imparfaite et parfois frustrante. Et ça fait du bien de voir, dans ce type d'univers, une œuvre qui propose. Contrairement à des trucs comme Romulus. Alors, avant d'entrer dans l'art, on va très rapidement parler des principales qualités et des principaux défauts, en tout cas les plus apparents. Concernant les qualités, je vais surtout parler des qualités de forme, là maintenant, parce que les qualités sur le fond et sur le propos, on en parlera un petit peu plus tard, mais sur la forme, bon, l'évidence, la direction artistique défonce tout le travail sur la direction artistique, le travail sur la photographie, l'éclairage et le rapport aux textures. Putain, c'est vraiment, vraiment très bon. Mais après, tu peux avoir tous les plans expérimentaux, bien beaux, quoi que ce soit que tu veux. Si tu montes le truc comme tu montrais un épisode de Plus belle la vie, ça sert à rien. Et là, que ça soit le filmage, mais aussi tout le reste de la forme, tout est très cohérent. Il y a vraiment un côté un petit peu rêve éveillé, bizarre, en termes d'atmosphère dans cette série que je retrouve peu ailleurs. Elle utilise sur la forme des trucs qui peuvent être considérés comme cheap, au même titre que par exemple il y a quelques années, les zooms étaient considérés comme ultra cheap avant qu'ils reviennent bien entendu à la mode. Là, il y a tout ce truc sur les surimpressions entre différents plans, différentes temporalités, différents personnages, qui crée, ouais, ce côté encore une fois rêve enfiévré. La musique aussi est assez raccord avec ça parce qu'elle est à la fois bonne et pas envahissante. Et la partie pas envahissante de l'équation, elle est assez rare aujourd'hui. Mais non, là, elle laisse la série respirer et développer cette atmosphère qui est vraiment, vraiment particulière. Du côté des défauts évidents, il y en a un, beaucoup de gens ont parlé à juste titre, c'est que la série a tendance à confondre personnages hauts en couleur et personnages juste cons. C'est vraiment un trope de l'horreur où, pour déclencher des rebondissements, t'as besoin d'avoir des personnages qui font des choix stupides. Et cette série le fait un peu trop. Après, ça joue aussi sur les dissonances qu'on a, vu qu'on a ces personnages super importants dans la série qui sont littéralement des enfants dans des corps d'adultes. T'as beau savoir ça, spontanément t'abordes des personnages comme tu aborderais des adultes classiques. Donc, tu te dis, mais ils sont complètement cons, mais en fait non, c'est des enfants de 8, 9, 10 ans et quelques. Du coup, ça joue même sur l'ambiguïté à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, ce syndrome du personnage con, je trouve qu'on le voit surtout dans tout ce qui se passe à bord du vaisseau de la Weyland-Yutani, qu'on voit dans l'intro de l'épisode 1 et dans tout l'épisode 5, qui est un épisode en flashback. Et c'est un épisode vraiment, vraiment particulier, parce que autant tout le reste de la série a vraiment une esthétique à elle, autant tout ce qui se passe à bord de ce vaisseau, c'est le trip régressif absolu, où il recrée absolument tout du premier Alien. Les cadrages, la DA, les costumes, l'atmosphère, tout est vraiment une copie carbone du premier Alien. Et dès le départ, il y a un truc qui m'a gêné, le fait que quand je vois dans Alien Earth ces gens à bord du vaisseau interagir entre eux, essayer d'avoir des personnages un petit peu justement haut en couleur, un petit peu excentriques, qui se démarquent, qui ont ce côté un petit peu bigger than life, je vois des comédiens, qui sont pas des mauvais comédiens, mais des comédiens, tandis que dans le premier Alien, je voyais des gens. Je pense que c'est ça en fait, c'est une surconscience. Déjà une surconscience du spectateur dans notre regard et dans toutes les images qu'on s'est pris dans la gueule pendant 40 ans, voilà, notre regard est plus le même aujourd'hui, et une surconscience aussi chez les acteurs. Parce que dans le premier Alien, bah, c'était des acteurs qui prenaient un job, et ils faisaient leur job d'acteur, tout simplement. Aujourd'hui, ces comédiens savent exactement là où ils sont, dans quelle franchise ils sont, quel impact ça va avoir sur leur carrière, quel relais ça va avoir sur les réseaux sociaux, comment interagir avec tout ça. Il y a une surconscience absolue. C'est un peu comme la différence entre les making-of du Seigneur des Anneaux et les making-of du Hobbit, où dans le Hobbit, tu sens que, eh ben, ils savent exactement dans quelle franchise ils sont, quel impact populaire et culturel ça a. Et du coup, leur rapport à la caméra est beaucoup moins spontané, beaucoup moins vrai. Here we are. Et ce qu'on voit dans toute la série, mais particulièrement à bord de ce vaisseau, puisque ce qui se passe à bord de ce vaisseau tend le bâton en fait pour se faire comparer avec le premier Alien, c'est que cette série échoue à créer une vraie tension autour du xénomorphe. C'est comme si la série avait tellement conscience de la quasi-impossibilité aujourd'hui de recréer de la peur autour de ce xénomorphe qu'on connaît absolument par cœur, qu'elle essayait même pas. Alors peut-être qu'il y a des mécaniques à trouver autour de ça, mais en fait elle reporte complètement son attention sur les autres formes de vie alien, qui elles, parce qu'on connaît pas justement leur fonctionnement, on ne sait pas ce qu'elles sont, et qu'elles en appellent vraiment à des réflexes instinctifs qu'on a de dégoût, de rejet, elle crée de la tension, mais le xénomorphe, pas du tout. Le xénomorphe, soit il prend la pose, soit il bouge à la vitesse de la lumière pour tuer des gens qu'on connaît pas hors champ. Après, ayant beaucoup pratiqué le genre horrifique, je suis aussi peut-être désensibilisé par rapport à ça. Je connais des gens qui flippent devant Gremlins, donc peut-être qu'ils ont flippé devant Alien Earth, je sais pas. Et c'est très bien si c'est le cas, parce qu'ils ressentent des trucs au moins. Mais un truc sur lequel je pense on peut s'accorder, c'est que l'iconisation, c'est l'ennemi de la peur. Dès le moment où tu iconises une créature, que tu la mets sur un piédestal plein de lumière, c'est gagné pour le lore, pour la mythologie, où tu vas créer juste une arborescence de choses autour de cette créature et comment elle sera reliée. Mais c'est foutu pour le stress qu'elle va générer. Au milieu de cette saison 1, il y a quand même un énorme ventre mou. Il y a quelques épisodes qui patinent, particulièrement l'épisode 5 dont je parlais, qui se passe à bord du vaisseau de la Weyland-Yutani, qui est un flashback à bord de ce vaisseau avant qu'il s'écrase sur la ville de Prodigy, qui est l'épisode hommage à Alien, et qui est un épisode de rien, qui ne justifie qu'une seule chose en termes de récit, c'est d'apprendre que ce crash était orchestré par Prodigy. C'est un truc que t'apprends en 10 secondes, et autour de ces 10 secondes, tu dois te fader quasiment une heure d'épisode, qui est une mauvaise ressucée du premier Alien. Et pendant tout ce moment, en fait, je me dis, putain, mais je sais pas où cette série veut en venir. Et ça, c'est particulièrement le cas au niveau du lore, de la mythologie de cet univers. Le lore, quand c'est libre, quand c'est créatif, quand c'est bien fait, c'est fantastique. C'est fantastique, le lore. Quelque chose qui permet de créer une extension au-delà des œuvres elles-mêmes, une extension de la mythologie que ces œuvres dégagent, quelque chose qui va pouvoir être réappropriable par le public, où les spectateurs vont se transformer à leur tour en créateurs. Mais forcément, entre les mains d'une industrie qui va instrumentaliser ce lore, le lore, ça devient quelque chose qui est facilement impactable, qui permet de faire parler, d'une certaine manière, les fans sur Internet, de créer un relais marketing aux œuvres. Ça permet de construire artificiellement de l'univers étendu à non plus finir. Bref, c'est quand le lore devient une sorte de temple avec ses gardiens du temple. Voilà. Sauf que le lore, bien entendu, ça fait pas une bonne œuvre. Du lore, ça se saupoudre sur une œuvre. Si tu veux vraiment te plonger dans le lore, tu vas lire une page Wikipédia. Par exemple, tu vas lire tout l'historique de la Weyland-Yutani. T'as pas besoin de voir les films pour avoir tous les détails de qui a été le deuxième PDG de Weyland-Yutani. Ça, tu peux aller vérifier quelque part. Et il y a un truc qui a émergé ces dernières années, c'est la notion de cinéaste fan. Il y a une génération de cinéastes actuels qui ont grandi dans les années 80-90, alors que la notion de fan, au sens pop culturel où on l'entend aujourd'hui, naissait, en fait. Fede Alvarez, qui a fait Romulus, il se définit comme un cinéaste fan, par exemple. Sauf que fanatique et vision personnelle, disons que c'est deux choses qui vont pas très très bien ensemble. Et juste pour précision, là je fais vraiment une distinction entre fan et le fait d'aimer et respecter une œuvre. Cameron, Fincher et Jeunet, par exemple, ils se sont jamais définis comme des fans de l'original. Ils avaient énormément de respect pour le film de Scott, mais le lore, ils l'ont passé à la moulinette de leur regard. Et c'est des films qui, en leur temps, on a tendance à l'oublier, ont énervé beaucoup de gens. Du coup, les cinéastes fans façon Alvarez sur Romulus, c'est du pain béni pour l'industrie, parce qu'ils vont rester dans les clous du lore, sans trop faire de vagues, tout en permettant au studio de mettre patte blanche sous la porte auprès des gens de l'autre côté, c'est-à-dire les spectateurs qui eux-mêmes se définissent comme fans et qui vont trouver une sorte d'écho, miroir, avec le cinéaste fan en se disant « Ouf, chic, l'univers que j'aime va être traité comme il le doit ». Alors, le lore, il faut que ça soit respecté, un minimum. Bien sûr, je suis d'accord avec ça. Il y a une logique interne qu'il faut prendre en compte, il y a tout un passif qu'il faut prendre en compte. Mais le risque, c'est de créer de plus en plus de situations où, en fait, les œuvres sont de plus en plus uniquement jugées sur la base de nos attentes et de ce qu'il faut faire, et non plus sur la base de ce qu'elles proposent, en fait. Et critiquer Alien Earth uniquement sur la base de ce qu'une série Alien serait censée être, c'est un peu comme interrompre quelqu'un qui dit un truc plutôt intéressant juste parce que t'aimes pas le son de sa voix. Ne fais pas ça. Et c'est là que le lore devient un obstacle, à quelque chose qui enferme au lieu d'être ce qu'il est censé être à la base, c'est-à-dire quelque chose de créativement ouvert. C'est pour ça que Alien Earth, elle a des choses à dire à la base, mais elle se retrouve dans cette situation où elle est tiraillée entre deux choses qui sont complètement opposées. C'est-à-dire essayer de raconter des choses intéressantes dans une industrie qui veut faire du Romulus. Et elle se bat contre ce lore, cette série. C'est très très bizarre à observer.
You know, these movies are in my blood. I've seen them since I was a very young man. So it's not about going back and rewatching them, right? It's about thinking about the feelings that they gave me when I watched them and then figuring out how to make you, the audience, feel the same thing while telling you a totally different story. And I think that's really the key for me.
Dans la deuxième partie de la série, à mesure que Wendy développe son lien mystérieux avec les entités extraterrestres, et particulièrement avec les xénomorphes, un lien qui est narrativement pas du tout expliqué, qui est vraiment paresseusement amené, mais qui, symboliquement, a du sens, on va le voir un petit peu après, et bien le xénomorphe devient une sorte de compagnon, une sorte de presque d'animal de compagnie, qui attaque des gens sur demande, juste pour protéger Marcy, et pour Marcy, Wendy, c'est ces deux noms. Et beaucoup de gens, forcément, tollés chez les fans, qui se sont plaints du fait que le xénomorphe a perdu de sa superbe, qu'il est réduit à une posture de toutou, et que c'est ultra irrespectueux envers la mythologie et envers les fans. Et effectivement, c'est fait de manière un petit peu bourrine. Mais dans la pop culture, le xénomorphe, c'est quoi aujourd'hui? C'est un toutou. C'est une marionnette qui a une main bien profonde enfonçant en elle, qui va là où on lui demande d'aller, qui est au service du pognon, qui est au service d'une franchise, qui est déclinable à l'infini. Le xénomorphe est dans Alien Earth exactement ce que le xénomorphe est dans notre culture aujourd'hui. Il y a vraiment, dans cette série, un rapport d'amour-haine au lore qui est assez peu commun. Pas au point de Matrix 4, on est d'accord, mais ça se pose là quand même. Je veux dire, quand tu fais des génériques de fin qui sont ce qu'on appelle des needle drops, c'est-à-dire des chansons connues, Metallica, Tool, Dio, Jane's Addiction, Pearl Jam, Alice in Chains, bien entendu, les gens comme moi vont dire « Ah, chouette !» Mais ça n'empêche pas que c'est ultra en décalage avec ce qu'on attend en fait de l'atmosphère d'une série alien ou d'atmosphère qui est censée être développée ou même du reste de l'atmosphère de la série elle-même pour ce qu'elle fait. Et tu fais pas ça sans vouloir te mettre les fans à dos.
Easy for you to say, cyborg.
Je parlais du tout début du premier épisode qui se passe à bord du vaisseau de la Weyland-Yutani où t'as les gens qui se réveillent exactement comme dans le premier Alien et qui vont se retrouver à la cafétéria, qui commencent à parler, et ils te font toute exposition de la série. Zgui te parle de la situation géopolitique. Oui, alors oui, quatre corporations, Weyland-Yutani, Prodigy, et machin, t'es en mode putain. Et ça sonne faux au point, tu dis ça peut pas ne pas être volontaire. Et encore une fois, c'est pas comme si c'était toute la démarche de la série. Ça se cantonne juste au tout début de l'épisode 1, et à l'épisode 5, qui est l'épisode flashback. Le reste du temps, c'est absolument pas dans cette logique de fan service, de recréation, d'héritage, de quoi que ce soit. Pas du tout. Et quand tu vois Noah Hawley en interview, bon, tu sens que le premier film de Scott a beaucoup compté pour lui, qu'il vraiment l'apprécie et a beaucoup d'estime pour lui, mais à aucun moment, il se positionne comme fan. Et tout ça, ça fait que ces moments apparaissent vraiment comme une greffe bizarre. C'est comme si la série te mettait cette espèce de copie carbone d'Alien 1, mais en moins bien, pour te dire, regarde, c'est techniquement superbe, c'est beau, tout est censé être exactement pareil, mais ça fonctionne pas. Voilà, vous avez eu votre fanservice, vous voyez que ça sert à rien, maintenant on passe à autre chose. Forcément, Noah Hawley, même s'il a été très libre sur la série, qu'il a fait ce qu'il voulait faire, il y avait un cahier des charges. Il y a un cahier des charges sur le lore, sur la mythologie, sur l'héritage, sur les trucs à représenter, sur comment faire plaisir aux fans, sur ci, sur ça. J'ai l'impression que quitte à faire ça, il a dit ok, il l'a cantonné à ces moments-là, ok, on va faire ça, mais je pousse les potards tellement à fond que ça avait créé cette ambivalence un peu étrange. Et le vrai problème d'Alien Earth, on y vient, pour moi, il est là. C'est que c'est une série, dans le contexte actuel, qui a eu besoin de se déguiser en série alien pour exister. Littéralement, cette série, tu renommes Weyland-Yutani et tu vires le xénomorphe, tu te focalises uniquement sur les autres formes de vie aliens que tu vois dans la série et tu remplaces le xénomorphe par une autre, quelle qu'elle soit. Ça ne change rien. La série raconte exactement la même chose et il n'y a plus rien, quasiment plus rien, qui la raccorde à la mythologie alien. Je veux dire, dès le premier épisode, quand il y a cette longue séquence chez Prodigy, justement, pour établir ce qu'est le transfert de conscience et voir comment la petite Marcy va se réincarner en Wendy, son alter ego hybride humain synthétique. C'est fascinant, la série pose vraiment ses bases thématiques, son atmosphère, ci, ça, ça. Et au bout de cette séquence, je me suis dit, ah putain, mais je suis dans une série alien. J'avais vraiment zappé, et ça m'aurait absolument pas dérangé que la série continue à raconter ce qu'elle raconte à son rythme, à sa manière, en faisant complètement l'impasse sur le xénomorphe ou tout ce qui a trait à la mythologie alien. C'est un peu comme quand Hideo Nakata va aux États-Unis pour réaliser la suite de The Ring. Et tu sens qu'il s'intéresse encore au personnage, qu'il aime l'histoire qu'il est en train de raconter, mais que la VHS et Samara slash Sadako, il n'en a plus rien à faire. Parce que continuer à battre le même fer et continuer à utiliser ses boogeymen de la même manière, ou ses ressorts de la même manière, tu ne peux plus échapper à l'autocaricature. Mais le truc, c'est que pour exister à ce niveau, de budget et d'importance, dans l'industrie actuelle, il faut des intellectual properties, des IPs, c'est-à-dire des franchises, des marques connues, enfin des choses que les gens connaissent. J'ai entendu dire, via un scénariste que je suis sur Instagram, que apparemment, il y a des scénaristes à Hollywood qui écrivent des spec scripts, c'est-à-dire des scénarios originaux qui ne sont pas des commandes. Et ils ont des retours de studios qui leur disent « C'est bien, c'est vraiment cool, mais est-ce que vous pourriez écrire d'abord le livre dont ce scénario serait l'adaptation ?» Ce qui fait que vous allez déjà construire un public, et quand vous faites l'adaptation, ça y est, il y aura déjà un public visé, on marche sur la tête. Mais apparemment, c'est un truc vraiment qui se passe. Et dans Alien Earth, tu sens que le Xenomorph, bien entendu, c'est la figure de proue, c'est la justification de la franchise, mais c'est un passage obligé. En même temps, la franchise s'appelle Alien, elle s'appelle pas Xenomorph Gigueresque. Du coup, c'est pas déconnant avec le titre, n'est-ce pas? Le fait même de reléguer le Xenomorph à un statut de figurant. En fait, Alien Earth, pour moi, c'est une version beaucoup moins ratée de ce que Prometheus avait essayé de faire. C'est-à-dire, encore une fois, utiliser la mythologie alien comme une excuse pour faire de la SF existentielle. Prometheus, la question, c'était d'où est-ce qu'on vient? Alien Earth, la question, c'est qu'est-ce qui fait que nous sommes nous? Alien Earth, c'est vraiment un truc sur l'identité et les contours de l'identité. Sauf que la différence, pour moi, c'est que là où Prometheus te bourrait la gueule avec ses questionnements existentiels en dépit de la mythologie alien, toi, t'es en mode, mais c'est quoi le rapport? Je m'en fous, tiens, questionne-toi. Alien Earth le fait d'une manière qui est beaucoup plus raccord avec des choses qui sont dans la saga alien, dans sa mythologie, mais depuis le tout début. Parce qu'en fait, après toute la partie au milieu de cette saison où je me disais, mais où est-ce que cette série va en venir? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Mais c'est un carnage! C'est le moment où j'ai commencé en fait à prendre le truc sous l'angle thématique, voire symbolique, et quand tu commences à prendre le truc sous cet angle, soudainement, Alien Earth devient un milliard de fois plus intéressante. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup de gens ont reproché à Noah Hawley, avec véhémence, de n'avoir rien compris à la mythologie alien. Mais Noah Hawley, c'est un des mecs que j'ai entendu parler du premier Alien avec le plus de pertinence. Alors bien sûr, il y a plein de niveaux de lecture dans le film, mais sur un de ces niveaux, qui à mes yeux est un des plus importants, il dit dans une interview que Alien, le premier, c'est l'humanité prisonnière entre le passé et le futur. D'un côté, t'as le xénomorphe, qui est symbolique en fait, du passé de l'humanité, en fait, quand elle était dans la chaîne alimentaire et qu'elle était menacée par des prédateurs de manière très directe, très physique. Et de l'autre, t'as l'androïde H qui essaie de les tuer pour récupérer en fait, le xénomorphe pour le compte de Weyland-Yutani. Donc, littéralement, au milieu, t'as l'humanité, son présent, fragile, éphémère, qui est prise entre l'étau du passé et du futur, avec le futur qui essaie d'instrumentaliser le passé pour détruire le présent. Et là, tu dis, mais oui! Oui, Noah Hawley. Et en fait, Alien Earth, il l'a abordé d'une manière qui est assez similaire. Le point commun entre toutes les entités aliens de la série, bon, à part le xénomorphe parce que la série a abandonné l'idée d'en faire quoi que ce soit, le point commun, c'est que c'est des entités qui sont avant tout en mouvement. C'est des entités qui sont en transformation permanente. Elles sont en devenir, toujours aller vers quelque chose. On ne sait pas ce qu'elles sont, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas où elles vont, on ne sait pas comment elles fonctionnent. On ne sait littéralement pas quels contours elles ont. Elles sont constamment dans des cocons, en mutation. C'est des choses, en fait, qui n'ont pas d'identité, au sens où on l'entend en tant qu'être humain. Elles n'ont pas de contours, on ne peut pas les cataloguer. On ne peut pas les mettre quelque part dans notre champ de vision et dire « Ok, je suis rassuré, tu es là, c'est sous contrôle. » Ça, existentiellement, c'est un truc qui tape profond dans notre psyché. Parce qu'en tant qu'être humain, on se définit avec des choses qui sont assez fixes. L'identité, c'est quelque chose qui est censé être, évolutif dans le temps long, mais qu'on considère souvent comme quelque chose dans le marbre. Je suis cette personne, j'ai ces souvenirs, j'ai ces goûts-là, j'ai ce passif-là, j'ai ci, j'ai ça. C'est des choses qui nous ancrent dans un socle littéralement bétonné d'identité. Et un truc qui terrifie beaucoup de gens, c'est de perdre la mémoire. C'est de perdre littéralement les souvenirs, c'est de perdre tous les souvenirs, même jusqu'à le souvenir de qui on est. Parce que si on perd ses souvenirs, qu'est-ce qui fait qu'on est toujours la personne qu'on a été? L'identité est souvent conçue comme une sorte de carte routière de nous-mêmes, à laquelle on se raccroche, parce que sinon, vide existentiel. C'est très malin cette manière d'aborder ces créatures extraterrestres, cette multiplicité des créatures dans la série. Ça tape vraiment dans cette zone-là, et d'un côté on a ces créatures, et de l'autre on a les synthétiques. Donc encore une fois, passé et futur, on reste sur la même équation. on a les synthétiques complètement synthétiques qui, eux, ont un petit peu dépassé la question d'identité ou qui l'abordent autrement. Il y a toujours une ambiguïté autour des synthétiques où on dit mais jusqu'où on pousse l'IA, jusqu'où on lui reconnaît une conscience d'elle-même, jusqu'où on lui reconnaît une identité quasi humaine ou même humaine tout court. Donc, par définition, les synthétiques nous renvoient en fait à une ambiguïté totale de l'identité qui nous fait fondamentalement flipper. Et là, en plus, maintenant, la série a ajouté les hybrides, c'est-à-dire ces enfants dont la conscience a été transférée dans ces corps synthétiques. Et c'est une idée qui est génialement dérangeante. Parce que ça crée, comme je disais un petit peu avant, une dissonance constante. Ton esprit, putain, je vois un adulte, mais pourquoi il se comporte comme ça? Mais en plus, les enfants, c'est des êtres qui sont en construction beaucoup plus qu'on l'est plus tard dans la vie. Donc littéralement, tous ces hybrides humains synthétiques sont des blank slates, qui sont en attente de construction. Et tous les enfants dans la série se positionnent différemment sur le spectre de l'identité. T'en as certains qui se raccrochent complètement à qui ils étaient dans leur vie humaine, d'autres qui se réinventent complètement dans leur nouvelle existence sur l'île de Prodigy. T'en as d'autres qui flirtent beaucoup plus avec la folie et qui ont beaucoup plus de mal à gérer cette ambiguïté. Et t'en as d'autres, comme Wendy, qui embrassent complètement cette nouvelle identité qui est une non-identité. Elle est ni Marcy, c'est-à-dire l'enfant qu'elle était, ni Wendy, sa nouvelle identité de robot, ni autre chose. Et c'est pour ça que ça crée cette espèce de connexion qu'elle a avec les aliens, parce qu'elle a embrassé le mouvement et la transformation, elle a fait le deuil de l'identité. Comme Gandalf, quand il revient dans les deux tours, il dit « Je ne suis pas Gandalf, je ne suis pas Saruman, je suis quelque chose d'autre. » Très bien. Ça rassure les gens de continuer à l'appeler Gandalf, mais ce n'est plus Gandalf, techniquement.
They're talking to me.
Marcy, c'est un petit peu la même chose. Ça fonctionne pas très bien narrativement dans la série, parce que la série jette ses pouvoirs magiques un petit peu à la va comme je te pousse. Mais il y a ce truc qui, existentiellement, encore une fois, fait flipper. Et la série tape très très juste là-dessus. En fait, c'est cette liberté qui fondamentalement dérange. La liberté, ou en tout cas ce qui est perçu comme une liberté. La liberté de choses qui sont fondamentalement différentes, mais qu'on ne peut pas cerner. Donc qui nous échappent. Donc qui sont une menace potentielle. Et c'est ça qui va faire qu'on va labelliser tel ou tel truc monstrueux. Et c'est ce qui fait aussi que le dernier épisode s'appelle, je sais plus comment, c'est Les Véritables Monstres, je crois que c'est ça le titre, en parlant des enfants. Parce que techniquement, en évoluant de cette manière et en embrassant ce mouvement, c'est peut-être une forme de vie nouvelle, ils deviennent des monstres aux yeux des humains. Et là, on revient aussi à l'étymologie du mot monstre, monstrer, montrer, c'est ce qu'on montre. Et Boy Cavalier, le big boss de Prodigy, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut littéralement les montrer à des potentiels acheteurs. Donc vraiment, la série est extrêmement littérale par rapport à tout ça. Et pendant ce temps-là, t'as cet œil dégueulasse alien qui a colonisé un mouton et qui observe les gens, comme s'il les scannait, comme s'il les scannait au-delà des simulacres de l'identité. Ouais, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il fait? Qui est-il? On ne sait pas. Par contre, on sait qu'il connaît Pi. Voilà. Donc, à la critique que j'ai souvent entendue comme quoi la mise en scène de la série est statique, alors déjà, le premier alien, il n'est pas statique peut-être? Et ensuite, pour une série qui parle à ce point de comment l'humanité est terrorisée fondamentalement par le mouvement de la vie et par des mouvements qu'elle ne comprend pas et qui se raccroche désespérément à son illusion d'identité, bah ça a peut-être une raison d'être statique. Bref, vous l'aurez compris, je préfère de très très loin une série qui est parfois frustrante, parfois maladroite, mais qui raconte des trucs fondamentalement intéressants à un énième karaoké pop culturel vide de sens de plus.
Oh non, not again.
Que faire du xénomorphe? C'est une très grande question, je suis pas sûr. Je pense en tout cas que si vous voulez retrouver les sensations que vous avez eues devant le premier alien, vous pourrez les retrouver, mais ça sera pas avec le xénomorphe. Et si vous voulez absolument que ça soit avec le xénomorphe, bah, rejouez à Alien Isolation. Merci d'avoir suivi cette vidéo, la prochaine arrive très très bientôt. Avant qu'on se quitte, petit aparté, il est là, le 5e numéro de la revue Estrange, va sortir le 16 octobre. Il est beau, il est tout chaud, il sort du four, c'est un très très bon cru. Vous pouvez le commander en ligne comme d'habitude ou alors le trouver dans les enseignes culturelles type Fnac, Cultura, etc. Vous connaissez le couplet. Et également, va sortir le 8 octobre un livre intitulé Les histoires vraies derrière les films d'horreur de la collection Écran Noir. C'est un livre écrit par Eric Libio auquel j'ai participé en écrivant préface, postface et introduction. C'est un très très cool livre, comme son titre l'indique, sur les histoires vraies derrière une sélection de films d'horreur, au sens large, c'est-à-dire thriller, horreur, épouvante, etc. Donc deux ouvrages que je vous recommande très très chaudement. Et voilà, je vous dis à très très bientôt et prenez soin de vous.